Je vous invite à tourner avec moi dans l'Évangile de Luc. Évangile de Luc au chapitre 1. Luc chapitre 1. Ce n'est pas un thème qu'on aborde souvent, mais j'aimerais vous parler ce matin sur la prière et particulièrement lorsque nous pensons que Dieu n'a pas répondu à notre prière. Nous savons que nous devons prier et il est vrai que nous devons prier. Mais combien de fois nous avons prié et nous ne recevons pas de réponse à nos prières? Nous allons lire à partir du verset 5. Nous lirons les versets 5 à 17. Du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie de la classe d'Abia. Sa femme était d'entre les filles d'Aaron et s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Ils n'avaient point d'enfants, parce qu'Élisabeth était stérile, et ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Or, pendant qu'ils s'acquittaient de ses fonctions, sa fonction de prêtre devant Dieu, car c'était le tour de sa classe, il fut désigné par le sort, d'après la règle en vigueur pour les prêtres, pour entrer dans le temple du Seigneur et y brûler le parfum. Toute la multitude du peuple était dehors en prière, à l'heure de l'offrande du parfum. Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tient debout à droite de l'autel des parfums. Zacharie fut troublé en le voyant et la peur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, et c'est là le verset clé, « N'aie pas peur, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth te donnera un fils et tu l'appelleras Jean. » Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse, et beaucoup se réjouiront de sa naissance, car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin, ni boisson alcoolisée, et il sera rempli de l'Esprit Saint dès le ventre de sa mère. Il ramènera beaucoup d'Israélites au Seigneur, leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'esprit de puissance d'Élie, pour ramener le cœur des pères vers leurs enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer pour le Seigneur un peuple bien disposé. » Prions. Seigneur notre Dieu, nous venons de prier pour un peuple bien disposé. Et bien, nous te demandons de disposer nos cœurs ce matin afin de recevoir ce que tu as préparé, ce que tu as en réserve pour chacun de nous ce matin. Que nous puissions, Seigneur, sortir d'ici avec une meilleure connaissance de ta personne, une meilleure connaissance de tes promesses et aussi, Seigneur, que nous puissions sortir de ce lieu grandi parce que nous aurons l'assurance que tu nous auras visités tous et chacun. Parle à travers ma bouche, Seigneur, que ce ne soit pas des paroles d'hommes qui puissent se faire entendre ce matin, mais que ton Saint-Esprit puisse parler et agir dans le cœur, Seigneur, des frères et sœurs en Christ. Et c'est en son nom que je te prie. Et le peuple de Dieu dit Amen. Il serait bon de nous poser la question, pourquoi il arrive que Dieu ne réponde pas à ma prière? Tout d'abord, nous devons dire que si parfois nous ne recevons pas de réponse à nos prières, c'est parce que nous n'avons pas demandé. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Je pense que c'est simple, hein? Vous ne recevez pas parce que vous ne demandez pas. Ça ne prend pas un cours d'université pour comprendre ça, hein? Voilà. C'est parce que nous n'avons pas demandé. On ne peut pas s'attendre à recevoir quoi que ce soit si nous ne le demandons pas. Avez-vous déjà réfléchi au nombre de versets qui nous ordonnent de prier dans la Bible? En fait, dans 1 Samuel, chapitre 12, verset 23, pour ceux qui ont leur Bible, allez dans ce passage-là, je vous invite à vous la souligner, ce passage. Samuel dit... « Je ne veux certes pas pécher contre l'Éternel en cessant de prier pour vous. » Il dit ici que le fait de ne pas prier est clairement un péché. Et on comprend mieux la parole de l'apôtre Paul dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 17, qui nous dit « Priez sans cesse. » Parce que ne pas prier, c'est péché. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole qui le dit, c'est le prophète Samuel qui le dit. Paul nous exhorte à prier sans cesse, et dans Luc chapitre 18, verset 1. Bon, vous n'êtes pas obligé d'y aller, on ne verra pas le texte, hein, c'est simplement un petit peu le contexte que je vais vous donner. Dans Luc chapitre 18, verset 1, vous pouvez prendre les versets en note, ceux qui prennent des notes, ou vous allez sur le site internet de l'Église et vous pouvez revoir le message au complet. Dans Luc chapitre 18, verset 1, Jésus va dire une parabole à ses disciples pour montrer qu'ils devaient toujours prier sans se décourager. À une autre occasion, il leur demande de rester vigilants et de prier afin de ne pas céder à la tentation. Marc 14, 38. Frères et sœurs, en toute honnêteté, si plusieurs d'entre vous ne voyez pas de résultats, c'est tout simplement parce que nous ne prions pas. Il n'y a rien qui peut remplacer la prière. On ne peut compter ni sur l'éloquence, ni sur nos propres forces, ni sur notre enthousiasme, encore moins sur notre intelligence, parce que Dieu n'a prévu aucun substitut à la prière. Maintenant, je vais vous dire quelque chose d'important. Dieu agit dans la vie de ses enfants uniquement en fonction des prières qui lui sont adressées. Si votre prière, votre vie de prière est déficiente, eh bien, c'est parce que votre relation est souvent déficiente avec Dieu, mais aussi vous ne pouvez pas vous attendre à recevoir de Dieu parce que Dieu répond uniquement en fonction des prières que ses enfants lui font. D'où cette parole de l'apôtre Paul dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 17, « Priez sans cesse ». Maintenant, ça ne veut pas dire qu'on se promène avec un chapelet puis un crucifix dans la rue où on travaille et tout ça puis qu'on prie. C'est l'idée d'être en esprit, d'avoir un esprit de prière. C'est-à-dire d'avoir nos pensées, garder nos pensées captives en Jésus-Christ, de se rappeler ce que les pensées captives en Jésus-Christ, c'est quoi? C'est de rappeler ce que Jésus est, ce que Jésus a fait et ce que Jésus a dit. Et si on garde nos pensées captives en Jésus-Christ, eh bien les pensées du monde ne peuvent pas pénétrer. Ça bloque les pensées du monde. Et là, on est disposé à partager les choses avec Dieu, à demander à Dieu. Et la prière est importante parce qu'à chaque fois que nous prions, nous donnons autorité à Dieu d'agir dans nos vies, mais aussi dans la vie des autres. Lorsqu'on dit au Seigneur, écoute, je te demande de sauver telle personne, je te demande de toucher telle personne, c'est qu'on lui donne autorité d'agir dans la vie de cette personne-là. Amen. Il m'est déjà arrivé de me lever le matin et de commencer immédiatement à travailler. J'avais tellement de choses à faire que je n'avais pas pris le temps de prier. Est-ce que cela vous est déjà arrivé? Un matin où il y a tellement de choses à faire que vous ne prenez pas le temps pour prier. Et là, les problèmes me tombaient dessus et je voyais chaque tâche plus difficile que ne l'était en réalité. Je me disais, mais pourquoi le Seigneur ne m'aide-t-il pas? Tout simplement parce que je ne lui avais pas demandé. Je me demandais pourquoi Dieu ne me l'avait pas fait savoir. Tout simplement parce que je ne l'avais pas cherché. J'ai essayé d'entrer dans la présence de Dieu, j'ai utilisé toutes les clés de la serrure pour entrer et je n'y suis pas arrivé. Tout simplement parce que je n'avais pas frappé. Ce matin, je me suis levé très tôt et avant même de commencer la journée, j'ai pris mon temps avec le Seigneur. Chers amis, si nous sommes trop occupés pour prier, c'est que nous sommes trop occupés. Amen. Il y a effectivement le problème de ne pas prier, mais qu'en est-il de l'autre problème, qui est celui de ne pas recevoir de réponse à notre prière? Nous prions, nous cherchons la face de Dieu, nous supplions, nous essayons de faire de notre mieux en nous assurant de demander à Dieu selon sa volonté, et pourtant, nous ne recevons pas de réponse à nos prières. J'aimerais vous transmettre trois choses ce matin rapidement sur la prière. Dieu ne peut pas et ne répondra pas à votre prière parce que vous ne me demandez pas, premièrement, parce que vous ne demandez pas selon sa volonté. Il ne vous donnera pas ce qui n'est pas conforme à sa volonté. Soyons honnêtes, plusieurs ne reçoivent pas de réponse à leur prière parce que leurs motifs ne sont pas purs. Tourne avec moi dans Jacques, chapitre 4, versets 1 à 4. Jacques est quelqu'un de très pratique. Si vous avez de la difficulté à comprendre les autres livres de la parole de Dieu, vous commencez avec Jacques. Jacques, c'est quelqu'un qui ne tourne pas en rond. C'est quelqu'un qui ne tourne pas autour du pot. On dit ça ici, quelqu'un qui ne tourne pas autour du pot? Oui? OK, bon, c'est bien. Quelqu'un qui ne tourne pas autour du pot. Et il nous pose cette question. Jacques, chapitre 1, 4, versets 1 à 4. La question qu'il nous pose est la suivante. D'où viennent les conflits et d'où viennent les luttes parmi vous? D'où viennent les conflits et d'où viennent les luttes parmi vous? Et il donne la réponse. C'est extraordinaire. Il aurait pu juste nous poser la question et nous laisser réfléchir, nous laisser rêver, nous laisser partager notre opinion, mais il nous donne la raison ici. N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous désirez et vous ne possédez pas, vous êtes meurtrier et jaloux, et vous ne pouvez rien obtenir. Vous avez des luttes et des conflits, vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Il dit, vous n'avez pas parce que vous ne demandez pas. Puis il continue, quand vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Dans le but de satisfaire vos passions, adultère que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour pour le monde est synonyme de haine envers Dieu? Honnêtement, Dieu ne peut pas répondre à certaines de nos prières si ce sont des motifs égoïstes qui se cachent derrière. Nous demandons et nous ne recevons pas parce que nous demandons mal. Vous dites, « Pasteur, est-ce que je peux demander à Dieu de pourvoir à mes besoins personnels? » Bien sûr que vous le pouvez, mais pas pour des besoins égoïstes. Voilà ce qui fait toute la différence. Dieu veut rencontrer chacun de vos besoins personnels. Dieu ne veut pas nourrir vos désirs charnels qui sont motivés soit par l'orgueil, soit par l'égoïsme. Car si vous êtes ami du monde et que vous demandez à Dieu de faire de vous une personne plus forte, pourquoi Dieu devrait-il vous rendre plus fort pour servir le diable? Jean dit qu'être ami du monde, c'est commettre spirituellement l'adultère contre Dieu. Supposons qu'une femme mariée qui est infidèle à son mari se présenterait devant celui-ci et lui dirait, « Chérie, pourrais-tu me donner un peu d'argent? J'aimerais passer le week-end à Bruxelles avec mon amant. » Pourquoi le mari soutiendrait-il son péché? Pourquoi Dieu soutiendrait-il notre adultère spirituel? Pourquoi Dieu devrait-il nous rendre plus forts pour servir le diable? Nous voyons nos prières ne pas être répondues parce que nous ne sommes pas dans le même état d'esprit qu'Élisabeth et Zacharie. Nos cœurs ne sont pas purs, nous ne prions pas selon la volonté de Dieu. Et il est évident ici que Zacharie était un homme qui marchait dans les voies du Seigneur. Regardez le texte dans l'Évangile de Luc, chapitre 1. Tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Ils étaient justes. Vous n'êtes pas capable de trouver un défaut par rapport à la parole de Dieu concernant Zacharie et Élisabeth. Religieusement parlant, c'était des gens qui obéissaient à tous les commandements et à toutes les ordonnances. Il n'y en a pas beaucoup que la parole va identifier comme étant des gens qui étaient justes. Mais ils étaient perdus tant et aussi longtemps que Christ n'était pas mort sur la croix pour leur péché. Les œuvres ne sauvent pas. Et pourtant, ils ont une relation incroyable avec le Seigneur. Et qu'est-ce qui arrive ici? Verset 6. Luc parle de Zacharie et d'Élisabeth, et il est écrit, je viens de le dire, tous deux étaient justes devant Dieu et qui suivaient de manière irréprochable tous les commandements et toutes les lois du Seigneur. Frères et sœurs, la prière n'est pas une sorte d'exercice où nous faisons en sorte que notre volonté sur terre s'accomplisse dans le ciel, mais plutôt que la volonté de Dieu dans le ciel s'accomplisse sur la terre. La prière n'est pas un signal que nous envoyons à Dieu pour qu'il réponde selon notre volonté. La prière consiste plutôt à découvrir la volonté de Dieu pour nos vies et à lui rendre l'honneur qui lui est dû par la suite. Tourne avec moi dans 1 Jean chapitre 5, verset 14. 14 et 15. Nous avons auprès de lui cette assurance. Si nous demandons quelque chose qui est conforme à sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, écoutez bien la fin du texte, quelle que soit notre demande, nous savons que nous possédons ce que nous lui avons demandé. Disons-le clairement, frères et sœurs, si parfois nous demandons des choses à Dieu en ayant du péché dans notre cœur, il est évident que Dieu ne répondra pas à nos prières. Ayant dit cela, regardons maintenant la deuxième raison pour laquelle nous n'obtenons pas de réponse à nos prières. Parce qu'il arrive parfois aussi que Dieu dise non. La deuxième raison, c'est que non seulement les prières sont parfois rejetées parce qu'elles ne correspondent pas à la volonté de Dieu, mais il arrive parfois que Dieu tarde à répondre à nos prières pour une question purement stratégique. C'est un grand mot que je viens de dire là, mais je vais vous expliquer, vous allez voir ce que je veux dire. Car pour Dieu, le moment, c'est-à-dire en anglais, on dit le bon timing, hein? Car pour Dieu, le moment est beaucoup plus important que le temps. Dieu répond, mais non pas nécessairement comme vous pensez qu'il devrait répondre, mais plutôt lorsque ce sera beaucoup mieux pour sa gloire et pour votre bien. Vous êtes amen à ça? Oui. Paul dit, rendez gloire à Dieu en toutes choses. Rendez gloire à Dieu en toutes choses. Frères et sœurs, quand on prie Seigneur, quand le Seigneur exauce nos prières, est-ce qu'on dit, Seigneur, gloire te soit rendue? Quand on rend témoignage parce qu'on a eu un travail, parce qu'on a eu ici, est-ce qu'on est capable d'ouvrir la bouche et de dire, je rends gloire à Dieu pour le travail que Dieu m'a trouvé. Je rends gloire à Dieu parce qu'il a disposé le cœur de cet employeur à me prendre à l'essai. Plutôt que de se compter sur nos propres forces. Si je prie en fonction, en m'appuyant sur mes propres forces, j'enlève la gloire qui revient à Dieu. Et en fait, le but de toute chose, c'est de faire en sorte que la gloire revienne à Dieu. Regardez maintenant les versets 13 et 14 dans Luc. Alors, un ange du Seigneur apparu à Zacharie lui dit, « N'aie pas peur, Zacharie, car ta prière a été exaucée. » Ou dans le grec, c'est mieux, c'est écrit, « Car ta prière a été entendue. » Je trouve ça intéressant parce que dans l'Ancien Testament, on dit que Dieu penche son oreille vers ses enfants. Et dans le grec, pour le Luc, c'est « N'aie pas peur, Zacharie, car ta prière a été entendue, c'est-à-dire qu'elle est exaucée. » Si vous regardez les choses dans leur contexte, l'idée ici, c'est qu'Élisabeth et Zacharie et Élisabeth priaient depuis longtemps. « Seigneur, nous sommes jeunes. Seigneur, nous aimerions avoir un fils. Ô Seigneur, donne-nous un fils. Ô Seigneur, Élisabeth est stérile. Seigneur, nous t'en prions, donne-nous un fils. » Et ils n'avaient toujours pas eu de fils. Est-ce que vous pensez sincèrement, en lisant le texte, qu'ils ont commencé à prier pour avoir un fils quand ils étaient âgés? Quand Zacharie n'était plus capable? Quand Élisabeth était non seulement stérile, mais que la ménopause était passée depuis un certain temps? Ça faisait des années qu'ils priaient. Et quand vous allez dans le grec, c'est constamment en train de prier pour recevoir de Dieu ce sujet qu'il puisse exaucer, ce sujet de prière. En fait, lorsque l'ange apparaît, il dit maintenant à Zacharie qu'il va avoir un fils. Sur le coup, si vous lisez la réaction de Zacharie, sur le coup, eh bien, il n'y croit pas vraiment. Ce que je veux dire, c'est qu'il prie depuis tellement d'années pour avoir un fils, qu'il a cessé d'attendre de recevoir une réponse à sa prière. Mais la bonne nouvelle, c'est que depuis longtemps, Dieu avait répondu à la prière de Zacharie. Et il allait lui donner maintenant ce qu'il attendait depuis des années. Et il y a de grands enseignements à recevoir pour nous ce matin. Et moi, ça m'encourage en tout cas à poursuivre dans la prière. Frères et sœurs, vous priez pour un sujet particulier. Dieu vous a répondu, mais vous n'avez pas encore été exaucé. C'est que Dieu attend encore un peu avant de vous répondre. Il y a deux étapes par rapport à la prière. Dieu entend votre prière. Il répond à votre prière, mais elle n'est pas encore exaucée dans votre vie. Je vais vous donner des exemples bibliques, ce n'est pas moi qui l'invente, je vais vous donner des passages bibliques tantôt. Parfois, les prières, elles sont retardées et elles le sont dans un but stratégique. Je pense à un autre exemple de prière que Dieu tarde à répondre, pourtant c'est une prière que Dieu avait déjà exaucée, mais que celui qui lui avait demandé ne l'avait pas encore reçue. Dieu y avait dit oui. Il avait entendu, il avait répondu à la prière, mais il n'avait pas encore exaucé. Tournez avec moi dans Daniel chapitre 10, versets 12 et 13. Daniel chapitre 10, versets 12 et 13. Juste après le livre d'Ézéchiel dans l'Ancien Testament. Daniel chapitre 10, versets 12 et 13. Écoutez-moi, je vais être honnête avec vous pendant que vous cherchez. Hein. Prêcher sur le sujet de la prière, souvent, c'est... Ça nous passe très haut, quoi. On aimerait en recevoir des messages autres que la prière. Parce que la prière, pour nous, ça reste souvent quelque chose d'abstrait. Mais ce que Dieu veut faire, veut nous convaincre ce matin dans nos cœurs, c'est que pour lui, la prière, ce n'est pas quelque chose d'abstrait, c'est quelque chose de très pratique, parce que c'est à travers la prière que Dieu agit. Et que si on a chanté ce matin que Jésus était vivant, eh bien, s'il est vivant, il va agir de façon pratique dans nos vies. Et ne pas rester une personne, quelque chose d'abstrait. Jésus ne doit pas être uniquement un don pour nous, un nom pour nous, pardon. Ah, c'est mon micro qui est tombé. Ne doit pas rester un don pour nous, un nom pour nous, pardon, mais vraiment une personne qui nous a sauvés. Ah, j'ai un problème avec le micro. Voilà. Daniel avait prié et il avait cherché une réponse venant de Dieu. Et le texte nous dit qu'un ange apparaît à Daniel et lui dit, « Daniel, n'aie pas peur, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, l'attitude pour venir devant Dieu dans la prière, l'humilité. Rappelez-vous, Abraham, « Seigneur, je ne suis que cendre et poussière, je suis rien. » Et quelle grâce tu me fais, Seigneur, de me présenter devant toi, toi qui tiens l'univers dans tes mains, toi qui vois toutes choses en même temps, Seigneur, que tu daignes jeter ton regard sur moi, mais surtout tendre ton oreille vers ton enfant qui veut te partager ses souffrances, qui veut te partager ses besoins, qui veut te louer pour la joie que tu lui donnes, pour la paix que tu lui donnes. Le texte nous dit, dès le premier jour où tu as à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues. C'est pas moi qui le dis. Alors raccourcissez le passage. Dès le premier jour, Daniel, tes paroles ont été entendues. Dieu qui a créé l'oreille n'est pas sourd. Dieu qui a créé les yeux n'est pas aveugle. Dieu a entendu ta prière, Daniel, dès le premier jour, et il t'a exaucé. Entendu, pardon. Et c'est à cause d'elle que je suis venu. C'est à cause de tes prières, Daniel, que je suis ici en bas, là, maintenant. Que j'ai quitté le trône de Dieu, hein? Je loue le Seigneur, Saint, 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 ton nom, toute la journée, et là, si je viens en bas, pourquoi? Je vais te trouver pour te dire tes paroles, les paroles. Le chef du royaume de Perse, qui est le prince de l'Iran, m'a résisté 21 jours, mais Michel, l'un des principaux chefs, est venu à mon aide et je suis resté là près des rois de Perse. On n'entrera pas dans le débat, qu'est-ce que ce passage-là veut dire ce matin, ce n'est pas le sujet. Mais ce qui est extraordinaire, frères et sœurs, dès le premier jour, Dieu a entendu. Quand vous priez, dès le premier jour, Dieu entend vos prières. Amen. Ayez cette certitude que vous ne perdez pas votre temps, que vous ne faites pas perdre le temps de Dieu quand vous venez en prière devant lui. Dès le premier jour, Dieu entend vos prières. Dieu va dire à Daniel qu'à partir du moment où il a commencé à prier, sa prière a été entendue et que c'est seulement 21 jours plus tard qu'il va recevoir la réponse. Frères et sœurs, Dieu peut exaucer une prière sans faire connaître immédiatement la réponse. Il peut tarder à donner sa réponse, et ce, jusqu'au moment que lui le juge à propos. Le temps de Dieu n'est pas notre temps, nécessairement. Tourne avec moi dans Marc, chapitre 11, verset 24. Marc, chapitre 11, verset 24. Pour ceux qui font du grec, c'est un texte extraordinaire à regarder, ça, le verset 24. C'est Jésus qui parle. C'est pourquoi je vous le dis. Tout ce que vous demanderez en priant, pas quelque chose que vous allez demander en priant, certaines choses oui, certaines choses non, tout! Tout ce que vous demanderez en priant, croyez! Croyez! Que vous l'avez reçu! Et cela vous sera accordé. Hey, c'est pas moi qui invente le verset, il est là. C'est pas moi qui vous parle, je cite la parole de Jésus. Je suis convaincu que Jésus n'est pas menteur. Alors, si ça ne marche pas dans notre vie, c'est pas son problème n'est pas de lui. Son problème, il est de nous. Amen. Oui. Et je rentre dans le groupe, hein? Le problème, il n'est jamais du côté de Dieu. Parce que là, on touche à la fidélité de Dieu. Et on risque de finir par dire que Dieu est menteur, qu'il ne tient pas ses promesses. Le problème, si ce verset-là n'est pas une réalité dans nos vies, le problème, il n'est pas du côté de Dieu, le problème, il est de notre côté. Et ça nous évite de se déresponsabiliser et de trouver des excuses quand Dieu ne répond pas à notre prière. Combien de gens qui disent, « Oui, Dieu ne répond pas à ma prière. » Ben oui, mais même moins que toi. Vous arrivez à quelqu'un, vous allez prier, Seigneur, me donner ça, gloire à Dieu. Ah ben toi, tu es chanceux, hein, parce que toi, Dieu, il t'écoute, mais moi, il ne m'écoute pas. Hein. Moi, je prie, puis il ne me répond jamais. Ben, le problème, il n'est pas du côté de Dieu. Hein. Le problème, il est du côté de la personne qui prie. Et en d'autres mots, qu'est-ce que Jésus est en train de dire ici? Vous allez recevoir déjà ce que vous avez. Croyez seulement que vous l'avez. Si vous l'avez maintenant reçu, croire que vous l'avez déjà ne serait pas avoir la foi. Mais lorsque vous ne croyez pas ce que vous avez déjà, ce n'est pas avoir la foi. Il suffit juste de croire que cela vous sera donné et vous le recevrez. Chers amis, cela fait maintenant plusieurs années que Dieu avait donné un fils à Zacharie et Élisabeth. Maintenant, moi, la question que je me suis posée en lisant le texte, pourquoi il ne leur a pas donné tout de suite? Pourquoi il ne leur a pas donné au bout de 21 jours? Ils étaient dans la force de l'âge. Zacharie aurait pu dire, ma semence est extraordinaire, regarde, ma femme était stérile et elle est partie enceinte. Pourquoi Dieu a attendu? L'ange vient dire à Zacharie qu'il est déjà avancé en âge, ainsi que sa femme. Il lui dit, ta prière est exaucée. Après tant d'années, ta prière avait été entendue. Elle avait été répondue. Maintenant, ta prière va être exaucée. C'est pas possible. Pas possible. Il ne faisait pas l'unif dans ce temps-là, mais il savait comment faire des enfants. Sa femme n'avait jamais eu, sa femme était stérile, elle avait passé le temps d'avoir des enfants. Lui, il se regarde, il se dit, écoute, c'est pas possible, mais il ne parle pas à moi, quoi. Avancé en âge, ça veut dire qu'ils étaient très âgés. Et je pense qu'il y en a beaucoup parmi nous qui demandons à Dieu des choses et qui pensons que Dieu n'a pas entendu notre prière. Mais Dieu a entendu et nous attendons qu'il nous donne ce qu'il a déjà exaucé. Pourquoi Dieu tarde-t-il? Je pense encore une fois que pour Dieu, le bon moment est toujours plus important que le temps. Notre temps n'est pas le temps de Dieu. Voici un verset qui est important de souligner, c'est dans Ésaïe chapitre 30, verset 18. Ésaïe chapitre 30, verset 18. Et ça, là, endormez-vous avec ce passage-là, endormez-vous avec ce verset-là ce soir. Ça va vous encourager. Ésaïe, chapitre 30, verset 18. L'Éternel n'attend que le moment de vous faire grâce. L'Éternel n'attend que le moment de vous faire grâce. C'est pourquoi il se lèvera pour vous manifester sa compassion. Quel beau verset! L'Éternel n'attend que le moment pour vous faire grâce. Frères et sœurs, qu'est-ce qu'on attend pour bombarder le trône de la grâce de Dieu, de nos prières? L'Éternel n'attend que le moment pour manifester sa grâce. Il veut nous montrer comment il est un Dieu de compassion. Il veut nous montrer comment il est un Dieu qui est gracieux. Ésaïe dit, l'Éternel n'attend que le moment de vous faire grâce. Pas de vous juger, pas de vous condamner, de vous faire grâce. Un pauvre pécheur perdu entend l'Évangile pour la première fois. L'Éternel n'attend quoi? Que le moment de lui faire grâce. Et on lui présente la croix de Jésus-Christ. Et Dieu manifeste sa compassion à travers la croix. Et les yeux, les écailles lui tombent des yeux. Et là, il se voit tel qu'il est. Et il confesse ses péchés, demande pardon au Seigneur. Il se repent. Dieu lui a fait grâce. Amen. N'est-ce pas magnifique? Si vous demandez quelque chose à Dieu, que vous êtes convaincu que c'est sa volonté, que c'est pour sa gloire, que votre cœur est pur et que vous marchez dans la vérité, même si la réponse ne vient pas, cela signifie simplement que Dieu attend le moment propice pour vous exaucer, pour manifester sa compassion et surtout pour recevoir l'honneur qui lui est dû. Voilà pourquoi Dieu attend parfois. Il veut manifester sa grâce envers vous et ensuite être glorifié. Heureux tous ceux qui comptent sur lui, nous dit la parole. Chers amis, ne renoncez pas, ne vous découragez pas, persévérez. Dieu veut que vous attendiez à lui et que vous attendiez à lui. Et il veille à ce que vous vous attendiez à lui. Il provoque des choses dans vos vies. Quand on est trop sûr, il nous donne un petit coup. Oups, on revient vers lui. Pourquoi Dieu n'a-t-il pas donné à Zacharie et à Élisabeth un fils lorsqu'ils lui ont demandé la première fois? Pourquoi l'ange est-il venu leur annoncer la nouvelle que Dieu avait exaucé leur prière alors que les deux étaient maintenant âgés? Pourquoi Dieu a-t-il attendu? Est-ce que je peux vous donner deux raisons ce matin? La première raison, c'est pour manifester sa gloire. Rappelez-vous ce que ce verset dans Isaïe. Cependant, l'Éternel n'attend que le moment de vous faire grâce. C'est pourquoi il se lèvera pour vous manifester sa compassion. Chers amis, Dieu attendait que cela devienne impossible pour Zacharie. Les meilleurs exaucements à mes prières, c'était quand il était impossible pour moi de pouvoir me débrouiller pour arriver à répondre à ma propre prière. En d'autres mots, c'est un mot qu'on ne dit pas souvent aujourd'hui, mais quand on est rendu là, c'est que Dieu veut faire un miracle dans nos vies. C'est exactement ce qui va arriver ici. Il est impossible que Zacharie puisse aller chercher la gloire pour lui, puisqu'il a dépassé l'âge, sa femme a dépassé l'âge. C'est Dieu qui va faire le miracle. C'est Dieu. Et vous savez, ils vont louer le Seigneur. Ils vont louer le Seigneur. Vous imaginez la troupe autour, le peuple qui est autour. Ils vont louer le Seigneur. C'est pas possible, Zacharie, c'est pas possible, Élisabeth. Ça fait tant d'années. Oui, mais Dieu a accompli un miracle. Ça glorifie le Seigneur. Pas dire, bien, j'ai essayé, on a essayé toutes les deux une coupe de soir, tu vois, puis bon, je pense que ça pourrait être ça. Malgré notre âge, on pourrait être ça. Hey, Dieu, il élimine tout ça, hein? Vous allez proclamer que j'ai fait un miracle, je vais avoir la gloire de ce qui va sortir de ton ventre, Élisabeth. Et Zacharie, je veux que tu loues mon nom. Mon nom est grand. Mon nom, il est merveilleux. Je veux que tu loues mon nom. Chers amis, Dieu attendait que cela devienne impossible pour Zacharie. Luc 1, verset 18. Zacharie dit à l'ange, « Comment saurais-je si cela est vrai? » Hey, il prie toute sa vie. L'ange vient annoncer que Dieu l'a exaucé. Qu'est-ce que vous pensez qu'il se disait? « Je me suis sûrement oublié, Dieu. Ça fait des années que je prie. » Et là, Dieu lui envoie un ange. Et il dit, « Voyons donc, comment moi je vais savoir que c'est vrai, là, ce que tu me racontes là? » Ben, tu ne parleras plus pendant un certain temps. Tu as douté, tu ne parleras plus pendant un certain temps. Et c'est ce qui est arrivé. Il dit, « En effet, je suis vieux, ma femme est d'un âge avancé. » Zacharie est en train de dire, frères et sœurs, si Dieu répond maintenant, ce sera un miracle. En d'autres mots, cela surpasse ma pauvre intelligence. Et c'est ça que Dieu veut faire avec nous. Je ne comprends pas, mais c'est Dieu qui est intervenu, gloire à Dieu. C'est là que Dieu veut nous amener, parce qu'on est incapable de raisonner avec Dieu. On va toujours arriver dernier avec Dieu. De raisonner avec les autres, oui, il y a toutes sortes de possibilités. Mais avec Dieu, on ne peut pas raisonner avec Dieu. Et Dieu veut accomplir un miracle. Frères et sœurs, ce matin, j'espère que vous avez la certitude qu'autant Dieu a accompli un miracle dans la vie de Zacharie et d'Élisabeth, qui veut continuer à accomplir des miracles à travers vous dans vos vies. Et le plus grand miracle que Dieu veut accomplir en 2014 à travers vous, c'est d'amener les gens de passer de la mort à la vie, c'est-à-dire de faire en sorte que les gens puissent naître de nouveau, naître de cette nouvelle vie en Jésus-Christ. Ça, vous n'êtes pas capable de le faire, c'est Christ qui peut le faire. C'est un miracle de Dieu, la nouvelle naissance. Amen. Maintenant, on a chanté tantôt sentinelle. Dieu veut que vous soyez des sentinelles pour son royaume. Et le cantique nous dit, proclamez le salut. Mais proclamons-le le salut. Frères et sœurs, le temps est court, le Seigneur revient bientôt. Frères et sœurs, c'est souvent lorsque tout devient humainement impossible que Dieu intervient. Et cela s'appelle un miracle. Depuis tout ce temps où Zacharie et Élisabeth ne cessaient de dire à Dieu, donne-nous un fils. Nous t'en supplions, donne-nous un fils. Et qu'Élisabeth prenait de l'âge et qu'elle avait passé le temps d'avoir des enfants, Dieu se préparait à accomplir un miracle. Frères et sœurs, n'arrêtez pas de prier pour vos enfants. Dieu s'apprête à accomplir un miracle. Ne tendez pas l'oreille à tout ce qu'ils disent. Nos enfants sortent toutes sortes d'excuses pour ne pas accepter le Seigneur parce qu'il y a des péchés qu'ils ne veulent pas abandonner. Ne gardez pas vos oreilles sur ce qu'ils disent. Gardez vos oreilles sur ce que la parole de Dieu dit. Dieu s'apprête à faire un miracle dans la vie de vos enfants. Maintenant, vous devez prier, 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 persévérer sans jamais vous relâcher. Amen. Amen. Puis-je vous dire, frères et sœurs, avez-vous remarqué qu'à chaque fois que vous priez pour que les choses s'améliorent, souvent elles s'aggravent? Zacharie et Élisabeth priaient pour avoir un fils et la situation allait en se détériorant. Ils prenaient de l'âge. Certains ont des conjoints qui ne sont pas sauvés. Vous priez pour eux, pourtant ils deviennent de plus en plus méchants. Vous priez pour vos conjoints et vous dites, oh Seigneur, sauve-le, sauve-la. Et plutôt que de voir la situation s'améliorer, vous constatez que se détériore encore et encore. C'était aussi le cas pour Élisabeth. C'était également le cas pour Zacharie. Cependant, lorsque leur fils va naître, quel sujet de joie ce sera pour eux. Et ô combien Dieu sera glorifié. Il en sera de même pour vous lorsque vous verrez votre conjoint ou votre enfant donner sa vie à Jésus-Christ. Permettez-moi de vous donner un autre exemple. Pour ceux qui parmi vous attendez toujours que Dieu réponde à votre prière. Ah, je ne sais pas si je vais avoir le temps de le faire, celui-là. C'est dans Jean chapitre 11, à partir du verset 1. Je vais brosser, hein? Ne tournez pas, je vais brosser parce que c'est un passage qui est long. Et je voudrais terminer le message. Le chapitre 11 nous parle d'un homme qui est malade qui s'appelle Lazare. Marie va envoyer, une des sœurs de Lazare va envoyer quelqu'un aller avertir Jésus que Lazare est malade. À cette nouvelle, Jésus dit, verset 4. Cette maladie n'a pas pour but de faire mourir Lazare, mais elle a pour but de montrer la puissance glorieuse de Dieu et doit servir à manifester la gloire du Fils de Dieu. Frères et sœurs, Jésus aimait Marie, Jésus aimait Marthe, Jésus aimait Lazare. Et je suis content que Jean ait écrit cela, que Jésus les aimait. Parce que parfois, lorsque Dieu n'a pas répondu à votre prière, ou lorsqu'il ne répond pas à votre prière au moment où vous auriez aimé qu'il réponde, vous pouvez penser qu'il ne vous aime pas. Quand il a attendu la nouvelle, Jésus, que Lazare était malade, il va demeurer encore 2 jours à l'endroit où il était. Il va délibérément retarder son départ. Il va demeurer sur place et par la suite, il va dire à ses disciples, « Bon, ils vont, retourne en Judée. » Il voulait maintenant retourner en Judée et rencontrer Marie et Marthe, qui devaient se dire, « Pourquoi ne vient-il pas? Lazare est de plus en plus mal. Son état va en empirant et pas de trace de Jésus. » Finalement, qu'est-ce qui arrive? Le texte nous dit que Lazare est mort. Pourquoi tardait-il? Pourquoi tardait-il? Devait-elle se dire. Est-ce que Jésus ignorait que Lazare était malade? Non. Car ils avaient envoyé quelqu'un pour l'avertir. Est-ce que Jésus était indifférent à leur malheur? Non, puisqu'il leur avait dit qu'il les aimait. Était-il impuissant? Non, puisqu'il peut tout faire. Pourquoi alors ne vient-il pas? Frères et sœurs, parce qu'il attendait humainement, qu'il soit humainement impossible d'intervenir. Afin, je viens de vous lire le verset 4, « Afin que la maladie de Lazare serve à manifester la gloire de Dieu et qu'à travers elle, la gloire du Fils de Dieu soit révélée. » Est-ce que vous savez comment l'histoire s'est terminée? Jésus a ressuscité Lazare. Et regardez le verset 40, qui est le point culminant de ce passage. Soulignez-le, c'est important, surtout les jeunes chrétiens. C'est un beau passage à souligner. « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? » Seigneur, montre-moi ta gloire. Est-ce que tu crois? Mais je ne la vois pas. Est-ce que tu crois? C'est pas moi qui dis. Parole de Jésus, hein? C'est pas parole de Jacques, un matin. Parole de l'Évangile, parole de Dieu, de Jésus. « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? » Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu continues, tu demandes dans ta prière, tu pries pour ton enfant, tu pries pour ton conjoint. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois et que tu le montres à travers ta prière, la prière c'est un acte de foi. Si tu continues à prier, tu verras la gloire de Dieu se manifester. On peut dire n'importe quoi à nos enfants. C'est Dieu qui convertit. C'est Dieu qui convainc de péché, de justice et de jugement. Nos enfants, ils nous connaissent tellement bien. Ils nous tournent en bourrique. Ils nous racontent n'importe quoi. Ils viennent jouer dans nos sentiments, puis ils nous endorment au gaz. Et là, on pleure, quoi. C'est vrai ou c'est pas vrai? On pleure. On s'empêche de dormir. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Amen. Soulignez-le. Quand vous êtes déprimé, relisez-le. Pardon, Seigneur, mon incrédulité. Ravive ma foi, Seigneur. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Frères et sœurs, Dieu agit toujours pour recevoir la gloire qui lui est due. Et c'est vraiment la raison pour laquelle nous prions. Seigneur, sauve mon fils. Seigneur, sauve ma fille. Seigneur, sauve ma femme. Sauve mon mari. Et glorifie-toi, Seigneur. Et vous savez comment Dieu se glorifie? Eh bien, cette personne-là, elle prend une décision pour Jésus-Christ. Et un jour, on la voit arriver en avant. Elle rend son témoignage lors de son baptême et elle glorifie le Seigneur. Elle est capable de dire, j'étais perdu dans les ténèbres et Dieu m'a sauvé. Et si je suis devant vous aujourd'hui, c'est un miracle. J'ai rien fait pour mon salut. J'ai rien fait pour être sauvé. Dieu a touché mon cœur. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Dieu a touché mon cœur, il m'a transpercé. Mon cœur était comme ça. Amen. Jean chapitre 14, verset 13. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que la gloire du Père soit révélée dans le Fils. Il ne dit pas, je vais le faire afin que vous ayez ce que vous avez besoin. Il dit, peu importe ce que vous demandez en croyant, en priant, pardon, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils, dans le nom de Jésus. Est-ce que le désir de votre cœur ce matin, c'est que Dieu soit glorifié? Rappelez-vous, il arrive parfois que les réponses à nos prières soient stratégiquement retardées, parce que Dieu veut manifester sa gloire. Et sa gloire, c'est quoi? Sa puissance. Vous parlez avec votre enfant et vous êtes impuissant à l'amener au Seigneur. Dieu veut manifester sa gloire, sa puissance. Et c'est à travers votre prière que Dieu va le faire. Dieu attend de répondre à votre prière afin de montrer combien il est gracieux envers vous. Combien Dieu a été gracieux envers Élisabeth. Tournez à nouveau dans Luc chapitre 1. Rapidement. J'aimerais vous montrer jusqu'à quel point Dieu a manifesté sa grâce envers ces gens. Regardez la fin du verset 13. Il est écrit que la prière de Zacharie est exaucée. Ta femme Élisabeth te donnera un fils et tu l'appelleras Jean. Portez attention ici à ce qu'il dit. Il sera un sujet pour toi de joie et d'allégresse et beaucoup se réjouiront de sa naissance. Écoutez, vous serez dans la joie et dans l'allégresse et beaucoup se réjouiront dès sa naissance, car il sera grand devant le Seigneur. Et il continue en disant de quelle façon il sera le plus grand parmi les prophètes, le dernier prophète de l'Ancien Testament. Et Jésus va dire dans Matthieu chapitre 11, verset 11, ne tournez pas, je vais le lire, « Parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'a jamais existé personne de plus grand que Jean-Baptiste. » Hey, ça valait-tu la peine que Dieu attende? Tu te contentes d'un bébé ordinaire ou je te donne le plus grand des prophètes de l'Ancien Testament? Je te donne celui qui va annoncer, qui va préparer le cœur du peuple, annoncer la venue de Jésus-Christ, préparer le peuple à recevoir Jésus-Christ? Tu veux que je réponde à ton temps? Tu vas avoir un bébé ordinaire, Élisabeth. Mon temps, c'est pas ton temps. Le moment maintenant, le moment présent, c'est qu'il va sortir de ton ventre. Un enfant qui, dès le sein maternel, sera rempli du Saint-Esprit. Vous n'en trouvez pas beaucoup. Lisez la Bible. Vous n'en trouverez pas beaucoup qui, dès le sein de leur mère, sont remplis du Saint-Esprit. Est-ce pas une joie, ça? Et là, tu te places devant le trône, tu dis, oh, « Seigneur, je te demande pardon. Je pensais que tu m'avais oublié pendant toutes ces années. » Et là, vous louez le Seigneur, quoi. Jean-Baptiste! Jean-Baptiste! C'est lui qui va sortir. Dieu avait attendu 4000 ans pour envoyer le Messie dans le monde. Et il voulait que quelqu'un annonce immédiatement sa venue. Et c'était la personne de Jésus-Christ. Dieu allait bénir le monde et il avait un plan pour manifester sa gloire et pour répandre sa grâce. Dieu savait exactement ce qu'il faisait. Mais Zacharie ne le savait pas. Élisabeth ne le savait pas non plus. Mais ce qui compte, c'est que Dieu savait ce qu'il faisait. Et si Dieu vous permet d'attendre avant de répondre à vos prières, frères et sœurs, Dieu sait autrement que nous. Autrement que nous. S'il attend, il y a une raison pourquoi il attend. Amen. Mais Dieu a entendu dès le premier jour. Votre prière a été entendue. Et à un moment donné, vous allez voir son exaucement. Si vous ne voyez pas Dieu agir, c'est important de se remettre en question nous-mêmes. Seigneur, y a-t-il quelque chose, par contre, de mon côté, qui peut faire obstacle et m'empêcher de recevoir la bénédiction, de goûter à ta grâce par rapport à la prière que je t'ai envoyée? Chers amis, si Dieu retient ce que vous avez demandé, n'y voyez aucun mal. Ce que je veux dire, c'est ceci. Pourquoi vous plaindre si Dieu retient quelque chose qui n'est pas bon pour vous? Souvent, Dieu ne nous donne pas ce que nous demandons parce qu'il sait qu'il y a quelque chose de mieux pour nous. Il a quelque chose de mieux à nous donner que ce que nous lui avons demandé. Je vais vous donner un petit exemple en terminant. Ruth Graham, qui était l'épouse de l'évangéliste Billy Graham, a dit un jour ceci. « Si Dieu m'avait donné ce que je lui avais demandé, je me serais marié avec la mauvaise personne à 7 reprises. » Vous avez compris? Probablement que jeune adolescente, elle voyait quelqu'un qui était beau, elle voyait des garçons. « Ah, ça doit être mon mari. Ah, c'est lui, ça doit être mon mari. Elle doit être mon mari. Ah, c'est lui-ci. » Elle espérait sur 7, elle espérait que ces 7-là étaient le mari que Dieu lui réservait. Elle dit, « Ou 7 fois, j'aurais marié quelqu'un qui ne faisait pas partie du plan que Dieu avait pour moi. Mais Dieu avait quelque chose de meilleur pour moi. » Je trouve ça magnifique, moi. Quelqu'un qui dit ça, c'est quelqu'un qui a une communion avec le Seigneur. Moi, j'aurais préféré avoir celui-là. Moi, j'aurais préféré être avec lui. Moi, j'aurais préféré me fiancer avec lui. Moi, j'aurais préféré me marier avec lui. Mais Ruth, Dieu avait quelque chose encore de meilleur pour toi. Et l'homme qu'il t'a présenté s'appelle Billy Graham, qui sera un des grands évangélistes de son temps. Elle a fait confiance au Seigneur. Elle a dit, « Seigneur, moi je te prie, je ne veux pas marcher par mes sentiments, je ne veux pas commencer à courir après un mari, comme une poule sans tête, moi je prends mon temps. Seigneur, je prie, je te fais confiance, tu sais bien mieux que moi où est l'homme que tu m'as réservé depuis toute éternité. Seigneur, moi je continue à prier. Je sais que tu m'as entendu, je sais que ma prière est exaucée. Et en son temps, tu vas m'envoyer celui qui est. Que tu appelles. Elle est devenue Ruth Graham. Et je suis convaincu que Élisabeth et Zacharie ont dit à plusieurs reprises dans leur prière, « Seigneur, s'il vous plaît. » Et Dieu attendait, Dieu attendait. Et c'était un retard purement stratégique. Vous lirez à la maison dans Romains chapitre 8, les versets 26 et suivants, qui nous parlent que souvent, on ne sait pas quoi dire dans nos prières, mais que Dieu par son Saint-Esprit, eh bien, parle à travers son esprit. Et le Saint-Esprit, pardon, intercède à notre place. Frères et sœurs, celle-là, il faut que je le dise avant de finir. Zacharie et Élisabeth priaient, et le Saint-Esprit de Dieu dit, voici ce que Zacharie demande pour lui. Voici ce qu'Élisabeth demande pour elle. Mais Dieu, voici ce dont ils ont vraiment besoin. Dès le début, ils avaient besoin d'un enfant. Ils voulaient l'avoir parce que pour Israël, ne pas avoir d'enfant, c'était une malédiction. Et là, et ils sont dans la fleur de l'âge, ils sont jeunes mariés, ils veulent avoir un enfant, ils ne l'ont pas. Et le Saint-Esprit intercède pour eux. Et parfois, Dieu peut tarder à répondre et parfois, il peut répondre différemment. Tout près de notre maison, il y a un transformateur qui est fixé après un poteau. Des lignes électriques arrivent et repartent de ce transformateur. Une énergie rentre d'un côté et sort de ce transformateur et cette énergie circule dans les lignes. Entre dans notre maison par un fil et fournit le courant dont nous avons besoin. Et cela me permet, entre autres, d'utiliser mon grille-pain. Si je prenais cette énergie qui circule dans le fil, sans passer par le transformateur, non seulement, eh bien, la tranche de pain qui se trouve dans le grille-pain, mais également le grille-pain serait carbonisé. C'est-à-dire qu'il ne resterait plus rien de bon. Pourtant, c'est la même énergie, mais c'est celle qui passe par le transformateur, qui fait en sorte qu'il soit adaptable et acceptable pour notre maison. Il en est de même, frères et sœurs, parfois avec nos prières. C'est la même énergie, c'est la même prière et c'est la même motivation. Dieu connaît notre désir de le glorifier. C'est le Saint-Esprit, ce grand transformateur qui intercède pour nous. En prenant nos prières, il fait en sorte qu'elles soient acceptables devant le trône de la grâce de Dieu. Et alors, Dieu répond à nos prières parce que parfois, nous ne savons pas comment prier, comment nous le devrions. Mais le Saint-Esprit lui-même intercède pour nous par des soupirs extraordinaires. Amen. Amen. Ayez la certitude quand vous priez que dès le premier jour, Dieu vous a entendu, Dieu vous a exaucé et qu'il s'agit simplement, au moment voulu par Dieu, de voir que cette prière, elle va se concrétiser dans votre vie parce que Dieu veut continuer à faire des miracles en vous et à travers vous.